Radio, cité Genève.
Genève internationale. Epiphana Monfaux.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de ce magazine Genève International que nous consacrons au récent examen du Cameroun devant le Comité des Nations Unies contre la torture. Ce processus crucial pour le respect des droits humains intervient dans un contexte où la situation sécuritaire s'est considérablement détériorée au Cameroun, exacerbée par les crises dans les régions anglophones et les actions antiterroristes. Le rapport alternatif préparé par la société civile camerounaise sous la direction du Recode dénonce des pratiques de torture institutionnalisées, notamment lors des détentions arbitraires ainsi que des traitements inhumains infligés aux défenseurs et défenseuses des droits humains, journalistes et manifestants. Le dit rapport plaide pour un cadre juridique plus rigide et une indépendance renforcée des mécanismes de protection des droits de l'homme. Bertrand Tientcheu appelle ainsi à un dialogue constructif avec les autorités camerounaises pour avancer vers un respect effectif des normes internationales en matière de droits humains. Entretien.
Genève internationale.
Bonjour Bertrand Tientcheu.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire permanent du réseau camerounais des organisations des droits de l'homme. Tout d'abord, justement, qu'est-ce que le RECODE ?
Alors, le RECODE, comme acronyme, Réseau camerounais des organisations des droits de l'homme, est une fêtière en réalité, une fêtière des organisations des droits de l'homme Cameroun. Elle a été mise en place en 2010 et il faut le dire, c'est une organisation qui a une particularité. C'est qu'elle est issue d'une volonté très articulée. C'est vraiment ce que nous avons souvent l'habitude de dire. C'est-à-dire qu'il y a une volonté des pouvoirs publics, il y a une volonté de la société civile elle-même, et il y a une volonté des partenaires financiers et techniques. Donc ces trois volontés se sont mises ensemble et ça a donné naissance à cette organisation. Et c'est ça qui fait un peu la particularité, la spécificité de cette organisation et qui aussi fonde notre démarche depuis 2010, qui est essentiellement fondé sur le dialogue multi-acteurs, le dialogue avec les pouvoirs publics. Nous ne sommes pas très souvent, comme nous l'avons entendu dire, une organisation frontale qui essaye de vouloir, voilà.
Vous êtes dans la construction, dans tout ce qui est constructif.
Dans un dialogue constructif, parce que ces trois volontés se sont rencontrées et ça a mis en place. Il y avait un rapport du Prosecco au Cameroun entre 2006 et 2010, il y avait un programme qu'on appelle le programme national de gouvernance qui était logé à la prémature au service du Premier ministre. Ce programme a commis un rapport pour analyser un ensemble le système de gouvernance du Cameroun et s'est intéressé au secteur public, au secteur privé et aussi s'est intéressé à ce secteur émergent en Afrique qu'on appelle la société civile et notamment les organisations de droits de l'homme. Et le rapport avait suggéré qu'il faudrait pouvoir, pour renforcer le plaidoyer au niveau national, mettre en place une fêtière, une organisation qui va fédérer les énergies, fédérer les forces de toutes ces organisations et leur renforcer les capacités pour pouvoir porter le plaidoyer. Donc c'était ça l'idée à la base de la création de notre réseau. Nous avons aujourd'hui 74 membres répartis sur toute l'étendue du territoire du Cameroun.
Pouvez-vous revenir sur le bien fondé de votre présence ici à Genève ?
Alors, nous sommes ici à Genève dans le cadre de la 81e session du Comité contre la torture, le Comité des Nations Unies contre la torture. Vous savez, c'est un comité qui est mis en place par la Convention des Nations Unies contre la torture qui a été adoptée en 1984. Et il faut le dire, le Cameroun a ratifié cette convention en 86, donc 2 ans après son entrée en vigueur. Le Cameroun devait passer l'examen de son rapport périodique. C'est ça qui justifie notre présence. Alors, davantage renforcé par les principes ou alors la démarche des mécanismes des organes des traités au niveau des Nations Unies qui encouragent la participation de la société civile. C'est-à-dire lorsque l'État fait son rapport, les autres acteurs, la société civile et bien d'autres, les journalistes peuvent aussi envoyer des rapports. Et nous avons co-construit un rapport alternatif avec notre organisation partenaire ici à Genève, qui est l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, et que, il faut aussi le dire, est l'organisation phare qui anime la collaboration entre la société civile mondiale et le comité. Donc nous sommes là pour avoir des interactions avec les membres du comité, et aussi, pourquoi pas, d'autres acteurs gouvernementaux, d'autres acteurs étatiques qui sont ici à Genève, pour apporter notre regard, le regard de la société civile. Parce que l'État a son regard et nous apportons un regard qui est un regard qui se veut complémentaire. Voilà.
Et ce rapport, donc, alternatif souligne une dégradation des conditions des droits humains au Cameroun. Quels sont les aspects les plus préoccupants que vous avez observés ces dernières années dans le pays?
Alors, il faut dire aussi que le rapport, oui, il y a des questions des droits humains, mais le rapport est assez spécifique parce que il est question d'évaluer la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture, les traitements et peines inhumains ou dégradants et tout cela. Donc ça, c'est une question assez précise, bien sûr, qui a des transversalités et qui peut aussi se retrouver, qui peut avoir des impacts sur d'autres aspects des droits de l'homme. Ce n'est pas, c'est différent de l'examen périodique universel qui est tout un mécanisme qui est généraliste, qui, voilà, ici là, nous avons une spécificité. Donc nous nous intéressons à la torture. Effectivement, il y a des éléments préoccupants en ce qui concerne les pratiques, les actes de torture au Cameroun. Il y a un certain nombre de facteurs contextuels, structurels même, qui causent cela. Le pays est en proie à différentes crises. Nous avons l'extrême nord du Cameroun avec les menaces de Boko Haram et nous avons le nord-ouest et le sud-ouest avec des mouvements. Il y a une crise sociopolitique qui a pris au fil du temps un développement à escalader vers des violences excessives un peu de partout. Et la réponse maintenant est que l'État a déployé un ensemble de forces dans ces régions-là. Ce contexte sécuritaire a fait que l'État, à un moment donné, s'est braqué et a mis en place des mesures assez fortes. Vous avez eu, par exemple, la loi antiterroriste qui a été adoptée en 2014, qui a été dans l'histoire législative camerounaise un moment crucial d'inversion. On pourrait dire d'inversion dans la pratique de la politique pénale du Cameroun. Vous savez que le Cameroun a adopté un code de procédure pénale en 2005 qui s'est présenté jusqu'à aujourd'hui comme l'un des codes vraiment les plus innovants parce qu'il a fusionné deux traditions juridiques. La tradition dite de la common law et la tradition dite du droit civil français. Et il a garanti un ensemble de droits aux personnes dans le cadre des procédures pénales, l'habeas corpus, le droit à un avocat, etc. Et voilà, la présomption d'innocence et bien d'autres choses. Les possibilités de libération sous condition et tout là. Malheureusement, 2014, avec l'adoption de la loi antiterroriste, ça fait que la politique pénale est inversée parce que elle se militarise.
Genève internationale. Epiphana Monfo.
Donc, vous dites que la lutte contre le terrorisme est utilisée comme justification pour de nombreux abus. Comment concilier cette lutte légitime avec le respect des droits fondamentaux?
Oui, c'est une question sur laquelle nous travaillons beaucoup. Nous avons commis un rapport en 2015 où on disait impératif, c'est un rapport sur la situation des droits de l'homme dans l'extrême nord. Impératif, entre impératif de sécurité et respect des droits de l'homme. Donc, il y a un impératif de sécurité, nous sommes d'accord, mais il y a aussi un respect des droits de l'homme, nous sommes d'accord. Alors, la loi antiterroriste, effectivement, fait quoi? J'ai dit tout à l'heure que la loi pénale se militarise parce que de plus en plus maintenant, le tribunal militaire peut arrêter les civils et les juger. Des unités spéciales de l'armée qui existent peuvent aujourd'hui s'infiltrer sur l'espace judiciaire, extraire un civil et l'amener le sortir du cadre judiciaire, c'est-à-dire qu'on va arriver dans un espace extrajudiciaire. Vous avez des unités qui interviennent dans des situations sans être dans la chaîne pénale.
Donc, unité, à savoir le bataillon d'intervention rapide.
Et nous avons une unité qui est très présente aujourd'hui dans beaucoup de rapports, c'est la division, ce qu'on appelle aujourd'hui au Cameroun, la division de la sécurité militaire, la CEMIL, sécurité militaire, qui a été créée en 2001 par l'État du Cameroun pour travailler sur des questions de morale de troupes, parce que c'est comme on dit, c'est la sécurité militaire, donc il faut sécuriser l'espace militaire. L'espace militaire doit être sécurisé de certaines influences extérieures. Et il faut travailler sur le moral des troupes, et il faut aussi travailler sur la discipline, dont la CEMIL est normalement un outil interne de discipline militaire, de sécurité de l'espace militaire.
Et non civil.
Mais aujourd'hui, la CEMIL se retrouve à aller attraper des civils.
Et quels sont les obstacles alors rencontrés pour faire respecter les droits humains dans ces contextes sur la base des exemples pris de la BRI et de la CEMIL?
Oui, c'est simple. Ça dit que le prétexte de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui donne la possibilité au commissaire du gouvernement, qui est le procureur à côté du tribunal militaire, de pouvoir attraper n'importe qui, de pouvoir même attraper des journalistes. Parce que on peut soupçonner un journaliste, parce que la loi de 2014 sur le terrorisme ne définit pas suffisamment le terrorisme. En fait, il n'est pas précis dans sa définition. Alors ça laisse un boulevard. On peut décider que toi, le journaliste, qui, par exemple, développe une analyse très critique vis-à-vis du gouvernement, on peut facilement trouver un glissement qui peut permettre de t'assimiler à un terroriste, ou bien de t'assimiler à faire de l'apologie du terrorisme, ou bien d'autres choses. Et il y a des journalistes qui ont été arrêtés dans ce cadre-là, et ils ont été jugés au nom de cette loi.
Quel exemple ?
Nous avons eu un journaliste, je crois que nous l'avons cité dans le rapport, le Abba, qui était un journaliste correspondant RFI, qui travaillait dans l'extrême nord du Cameroun, qui avait été arrêté. Il a fait une bonne période avec des phases de torture. Et puis, finalement, il a été libéré sans que véritablement on ne sache pourquoi est-ce qu'il avait été arrêté. Parce qu'il n'y a vraiment pas eu, voilà. Donc, il y a des cas comme cela. Alors, dans un tel contexte, c'est quoi? Nous avons souvent eu à mener plusieurs activités de dialogue sécuritaire avec les forces de défense. Comme nous disons, notre approche, elle est une approche de dialogue. Et nous avons développé un concept que nous avons appelé la sécurité humaine. Qui intègre la notion de sécurité telle que développée par l'État de la sécurité nationale, mais qui met aussi devant les droits de l'homme et les exigences de développement? Donc, l'armée doit nécessairement agir pour défendre le territoire contre des attaques extérieures et aussi contre des attaques des forces terroristes. Ça, on est d'accord. Avec cela, on ne sont pas contre ça. Mais ce faisant, l'armée a l'obligation de protéger. Protéger les civils, protéger les enfants, protéger les écoles, protéger les hôpitaux, etc., etc. Malheureusement, très souvent sur le terrain, on ne voit pas cela. Et il y a des dérapages, et il y a aussi que certaines autorités militaires n'arrivent pas à comprendre cela. Et maintenant, notre rapport, nous avons dit...
Parce que vous avez fait des recommandations. Et qu'est-ce que vous avez demandé justement au gouvernement?
Vous voyez le titre de notre rapport. Le titre le dit « Cameroun, un état de système ». C'est-à-dire que nous disons ceci. Nous avons une armée qui est là, qui existe et qui est connue. L'armée de l'air, l'armée de terre, les différents, avec ses différents démembrements qui sont dans la chaîne du commandement, l'état-major. C'est des gars qui sont parfois très bien formés, qui connaissent très bien la déontologie militaire, qui se déploient avec efficacité sur le terrain. Maintenant, vous avez des unités spéciales qui existent, qui en fait ont aussi été créées avec des rôles bien précis. Quand vous prenez par exemple le billet dont on n'a pas le patent d'intervention rapide, il avait été créé. Il y a une succession d'unités qui a d'abord eu à l'époque ce qu'on appelle le BLI, le bataillon léger d'intervention, qui avait été mis en place pour répondre à la problématique du grand banditisme qui sévissait dans les parties septentrionales du Cameroun, parce qu'il y avait un grand banditisme transfrontalier même qui sévissait. Et il fallait donc mettre en place une unité qui devait se charger de traquer tous ces réseaux de criminels et tout cela qui a fait trafic de drogue et tout cela. Et après, ils se sont déployés aussi sur le champ de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est une unité spécialisée de l'armée camerounaise qui a un rôle. Vous avez même ce qu'on appelle aujourd'hui la garde présidentielle, qui est aussi une unité spécialisée, qui a un rôle bien précis, mais qui peut aussi parfois être envoyée sur le terrain dans le cadre des opérations. C'est la sécurité des institutions, la sécurité présidentielle, la sécurité des diplomates et des autres chefs d'État qui arrivent au Cameroun. Sauf que, parfois, au nom de la question de la sécurité nationale, de la question de la lutte contre le terrorisme, ces unités peuvent se mêler de tout et sortir de leur mandat. Parce que quand il y a une disposition qui crée, par exemple, une unité qu'on appelle la CEMIL, qui dit qu'ils peuvent mener toutes les enquêtes et toute forme d'initiative qui ont été mandatées par le ministre de la Défense. Et vous savez, quand on dit ministre de la Défense au Cameroun, il faut très bien le savoir, nous avons un ministre délégué. C'est-à-dire qu'en réalité, le vrai ministre de la Défense, c'est le chef de l'État. Donc ça veut dire que le commandement, ça vient de la présidence de la République. Et toutes ces unités dont nous avons parlé ne sont pas dans la chaîne du commandement militaire. C'est-à-dire l'État-major ne peut pas donner des ordres à un élément du BI. C'est-à-dire vous êtes chef d'État-major, vous ne pouvez pas donner des ordres à un élément du BI. Vous ne pouvez pas donner des ordres à un élément de la garde présidentielle. Parce qu'elles échappent tous à la chaîne de commandement, dont elles peuvent être déployées avec d'autres logiques. Et ça fait donc que c'est cet espace-là parfois qui donne la plage à des interventions que nous appelons parfois un extrajudiciaire. Nous avons mentionné dans nos rapports un journaliste qui a été tué, on l'appelait généralement Wazizi. Ça, c'était son nom d'emprunt, le nom du moins. Lorsque vous voyez la chaîne, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a été pris et les différents endroits où il est allé, il était complètement hors de la chaîne judiciaire. C'est-à-dire que la police le prend, et puis au lieu que la police l'envoie chez le procureur, on le retrouve dans une autre unité qu'on appelle la brigade d'infanterie motorisée, la BIM, pour aller le torturer. Et dans cette chaîne de torture, il est décédé.
Comment justement le RECODE recueille-t-il et vérifie-t-il les témoignages de victimes de torture et quelles actions concrètes sont entreprises pour leur apporter justice?
Généralement, lorsque nous suivons un cas, La première chose très souvent que nous faisons, c'est que nous essayons d'abord d'entrer même en relation avec parfois même les personnes proches de ces personnes. On va passer aussi par son avocat. Si on a la possibilité de le rencontrer, on va trouver aussi un moyen de le rencontrer. Et on va documenter un certain nombre de faits. Nous essayons aussi parfois de contacter les autorités qui sont soupçonnées d'être responsables de cela. C'est sur la base de ces documentations suffisamment vérifié que maintenant nous déployons le mécanisme. Nous pouvons maintenant passer par la saisine de nos différents partenaires. Nous avons par exemple OMCT ici, qui a un mécanisme également pour apporter des appuis. Nous pouvons décider aussi de mobiliser des avocats autour de ces cas-là. Donc il y a l'assistance judiciaire par exemple qui peut être apportée en mobilisant des avocats. Il peut aussi avoir d'autres formes d'assistance, c'est-à-dire que si par exemple du fait des actes de torture, il y a des cas de maladie, on peut mobiliser, ça a eu une implication sur la santé, on peut mobiliser également une assistance médicale.
Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale pour accompagner le Cameroun dans cette démarche de réforme et de respect des droits humains?
Nous avons d'abord beaucoup d'attentes vis-à-vis de notre État, c'est-à-dire d'abord de notre gouvernement, d'abord parce que au niveau du droit international des droits de l'homme, ce sont les États qui prennent les engagements. Donc un État en ratifiant un traité, une convention, tout ce que vous voulez, dit qu'il s'engage. Et il y a trois responsabilités, trois types de choses. La responsabilité de protéger, la responsabilité de promouvoir et la responsabilité de respecter. Bien évidemment, la communauté nationale va venir avec d'autres mécanismes de coopération, de collaboration, de coaching et tout cela, et d'autres ressources pour pouvoir accompagner l'État. Ça aussi, c'est quelque chose à encourager. Mais si la communauté internationale a toute la volonté et que l'État n'a pas la volonté, je ne sais pas comment est-ce que cela pourra marcher. Donc notre première attente est d'abord au niveau de notre État, c'est-à-dire le Cameroun, l'État du Cameroun qui ratifie. Maintenant, la communauté internationale doit être pouvoir capable de venir à travers les mécanismes de coopération qui existent pour soutenir l'État, c'est-à-dire tous les mécanismes qui sont mis en place, il faut leur donner des moyens, il faut pouvoir trouver des moyens. Donc voilà un peu cela, c'est comme ça.
Merci Bertrand Tientieu, secrétaire permanent du RECODE.